Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour de votre week-end des experts sur RMC, 8h07. On est là jusqu'à 10h, vous le savez. Toutes vos questions auto au 32-16. Je vous rappelle aussi, pour tous ceux qui viennent de se réveiller, qui sont encore un peu embrumés, que ce week-end des experts vit ses dernières heures, hein, puisque notre émission se termine définitivement à partir du 3 janvier. Voilà, le 3 janvier, ce sera notre dernière émission avec Jean-Luc. On sera là quand même pour vous souhaiter la bonne année. Et à partir de la semaine d'après, vous retrouverez une matinale commune BFM TV, RMC, entre 6h et 10h le samedi et le dimanche matin. Et évidemment, on a été très heureux, très fiers de vous accompagner durant toutes ces années avec à la fois Jean-Luc, mais aussi tous les experts, hein, Patrick Mulan, Christian PC, Christian Ekia et Raphaël Grabli. Jean-Luc, d'ici 9h, on va accueillir tout à l'heure Maître Rémi Jossaume, que l'on va réveiller une dernière fois quand même.
Non, on le réveillera le 3. Mais enfin bon, ce sera une émission enregistrée, mais donc on le réveillera jouer, voilà. Le 3 aussi.
Voilà. Peut-être qu'il va être content finalement qu'on s'en aille, parce que comme ça, il pourra dormir le dimanche matin.
Il sera tranquille, on ne révélera plus sa vie privée à l'antenne.
Voilà, et c'est ça. Et peut-être que lui, ça lui fera plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au 3216, l'appli RMC Direct Studio. Vous pouvez aussi retrouver Jean-Luc Moreau sur Facebook, si vous voulez rester en contact avec lui. Il vient de créer sa page, donc voilà, Jean-Luc Moreau. Si vous voulez me suivre sur Twitter, par exemple, c'est tout simplement F Sorel. Voilà. Pierre est avec nous au 32-16, on l'accueille tout de suite avec plaisir. Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour. Et bien, j'aurais une question sur un véhicule que je vais acheter pour une petite famille avec ma femme et ma fille. J'avais pensé au Duster 130 chevaux essence, en occasion très récente. On fait pas mal de trajets autoroutiers pour aller en Espagne depuis l'Hérault. Donc là, on sort d'un Scénic 2 de 2003 assez bouillant. Donc ça, je pense que ça serait mieux. Mais on cherche quelque chose aussi donc d'assez habitable parce qu'on a une contrebasse. On est musicien, on travaille dans l'événementiel. Donc on a besoin de quelque chose d'assez grand. Donc c'est pour ça qu'on avait pensé au Duster. Et récemment, j'ai pensé aussi au C3 Aircross avec le PureTech 110 chevaux, qui est un moteur que je connais, pour l'avoir essayé sur la 308, avec un journaliste, d'ailleurs, un de vos confrères, Jean-Luc, au Castellet.
Vous me faites des infidélités, Pierre,
mais c'est pas du possible. C'est un moteur que je connais, j'avais gagné un concours avec Peugeot, et donc j'ai essayé ce moteur au Castellet, et j'avais apprécié ce moteur aussi. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez en termes d'habitabilité, de confort et de silence entre le C3 Aircross 110 chevaux et le Duster 130 chevaux, même s'ils n'ont pas la même taille hors tout. Ils ont l'air assez peut-être comparables.
Alors on va comparer les deux. On va faire les plus et les moins de chacun. Oui. Et en fonction des plus et des moins, vous me direz ce qui est prioritaire pour vous. Alors le C3 Aircross, c'est le plus confortable du lot. Je crois que dans la catégorie des petits SUV compacts, c'est le plus confortable de tous, avec des sièges avant très moelleux, des suspensions qui sont moelleuses. Il y a une vraie douceur de conduite, en plus avec cette motorisation. Bon, le coffre, par rapport à la taille de la voiture, il est plutôt généreux. Vous avez surtout une modularité qui ne va pas exister sur le Duster. Vous avez une banquette coulissante à l'arrière, sur 15 cm. Ça vous permet, quand vous avez la contrebasse... Alors, je ne me rends pas compte. C'est vraiment gros, un étui de contrebasse, quand même.
Ça fait 1,90 m en longueur.
Ah, ouais.
La tête de la contrebasse et le manche, ça passe entre les sièges avant, en général.
Oui, sinon, vous allez dans un magasin de bricolage. Pour 15 €, vous achetez une scie égoïne et puis vous la coupez en deux. C'est plus pratique à transporter.
Je ne sais pas si ma femme appréciera. Elle apprécie beaucoup votre voix, Jean-Luc. Je ne sais pas si elle appréciera que vous lui coupez sa contrebasse.
Alors, dans les défauts du C3 Aircross, la commande de boîte n'est pas extraordinaire. Les diesels, parce que si vous faites beaucoup d'autoroutes, ça peut avoir du sens de prendre un diesel. Mais vous m'avez dit, j'aime bien le PureTech.
Je ne prendrai pas de diesel.
Ouais, parce que l'insonorisation n'est pas excellente.
Oui.
Après, sur les moteurs PureTech, que ce soit 110 ou 130 chevaux, vous l'achèterez d'occasion ou neuf le véhicule?
Occasion très récente.
Occasion récente.
7 000 € à peu près.
Ouais, donc si c'est une occasion récente, normalement les problèmes qui sont liés à des à-coups doivent être réglés. Par contre, après, vous avez entendu tout à l'heure, on a un auditeur qui nous disait, j'ai un rappel sur un C4 Picasso parce que la distribution peut poser problème. Et vous aurez sans doute le truc à vérifier. Ça sera la distribution, cette fameuse courroie de distribution humide qui est baignée dans l'huile. Voilà, ça c'est le défaut avantage du C3 Aircross. Pour le Duster 2. Ben, dans les avantages, l'agrément. Alors, je vais dire déjà, l'équipement prix, c'est évidemment absolument sans concurrence. On n'a aucun véhicule qui offre des prestations de ce niveau-là à ce niveau de prix. Ensuite, l'agrément, parce que c'est une vraie voiture sympa à conduire. La position de conduite, elle est bonne. Le confort, il est bien. L'insonorisation est bonne également. Le truc qui sera moins bien que le C3 Aircross, c'est, je vous l'ai dit, la modularité. En revanche, le coffre est un peu plus grand d'origine.
D'accord, parce que c'est vrai que, excusez-moi, je vous coupe, parce que c'est vrai que quand on regarde la documentation chez Citroën, avec les finitions haut de gamme et la baquette coulissante, ils disent qu'on atteint 520 litres sur le Citroën Aircross contre 445. Alors, je ne sais pas.
Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Le mieux, vous partez avec l'étui.
Oui.
Et vous allez, non mais sérieux, hein, vous allez chez un concessionnaire et vous faites le test grandeur réelle. Il y a que ça qui vous dira dans lequel des deux ça rentre. Si votre critère numéro un c'est de mettre la contrebasse dedans, bah allez-y, mettez la contrebasse dedans. Oui. Vous allez chez Citroën, vous allez chez Dacia et vous expliquez au vendeur que vous avez besoin de faire ce test et que en fonction de l'échec ou de la réussite du test, vous achèterez le véhicule ou pas. Il n'y a pas de raison qui vous empêche de le faire. Alors, sur le Duster 2, il faut absolument prendre le moteur 1,3 litre TCE. Mais si vous prenez une occasion récente, ça sera ça. Mais vous auriez pris une occasion un peu plus ancienne, vous pouviez avoir le fameux 1,2 litre TCE dont on parle souvent et on n'en parle pas en bien. Mais là, c'est le 1,3 litre TCE. Et franchement, alors vous aimez bien le PureTech, mais le 1,3 litre TCE, il est mieux que le PureTech.
D'accord.
Il est mieux en agrément, il consomme moins. Le mariage Duster 2, 1,3 litre TCE, pour moi, c'est, en ce moment, c'est le meilleur rapport prix-prestation qu'on peut trouver du marché sur un SUV.
D'accord.
Il ne manque qu'une chose, il ne manque que la boîte automatique double embrayage. On espère que Dacia va quand même nous écouter et écouter ses clients surtout, parce que je pense qu'il y a plus d'un client sur deux qui réclame cette transmission sur ce moteur-là et pour l'instant, ils font de la résistance.
Tout à fait, oui. Voilà. D'accord.
Mais franchement, non, ça reste une super auto. En plus, il est joli, il est agréable à conduire. Et puis de temps en temps, si vous voulez vous balader dans les petits chemins l'été, vous pourrez toujours le faire parce que vous avez cette possibilité-là que vous n'aurez pas avec le C3 Aircross, qui même s'il fait un peu crossover, est quand même a pas d'aptitude vraiment tout chemin, alors que le Duster en a.
Pierre, merci beaucoup. Merci pour votre appel. 8h15 sur RMC. Jean-Luc, si on accueillait maintenant Maître Rémi Jossomme qui est d'ores et déjà réveillé. Bonjour Maître.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Maître.
Comment va notre avocat préféré ?
Bah écoutez, il va très bien, il se prépare pour les fêtes. Voilà, il a été sage, donc il devrait avoir des cadeaux.
Ah ! D'accord.
Ah ouais. Ça explique pourquoi
offrir...
moi j'en ai pas. Moi.
Qu'est-ce qu'on peut faire à un avocat, tiens, comme cadeau ?
Je sais pas, du guacamole ?
Non, vous savez, moi j'aime bien les produits un peu de nouvelles technologies.
Faut envoyer la liste à François S.
Ouais, ben je sais bien. Je vous suis sur d'autres réseaux, donc j'aime bien la nouvelle technologie. Je suis comme vous, j'aime bien un petit peu les choses un peu novatrices.
Très bien. Maître, on va se retrouver donc pour notre rendez-vous. Vous êtes là, évidemment, pour aider les automobilistes avec cette histoire incroyable cette semaine.
Oui, on va parler carrément d'un séisme, hein, là, pour le coup. Ça fait un petit moment, je crois que ça fait 5 ans qu'on a commencé à s'attaquer aux ralentisseurs illégaux en disant c'est un scandale. Ouais. Bon, jusqu'à présent, il y a des associations, en particulier Thierry Modolo qui nous écoute, avec qui vous êtes associé, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ouais. Qui est vraiment le spécialiste, le fer de lance de cette action. Effectivement, on s'est rapproché il y a quelque temps pour judiciariser un petit peu les actions. Parce que on avait le choix entre les actions stériles qui consistent à faire des pétitions ou des revendications un peu comme ça en l'air, et puis des actions plus ciblées et plus pratiques, et notamment l'action judiciaire. Donc il y a d'un côté les actions devant les tribunaux administratifs, on en a régulièrement parlé, avec
alors des comment ça fonctionne ça, Rémi? Moi par exemple, je suis victime j'abîme ma voiture ou j'ai un accident à cause d'un ralentisseur qui me paraît non conforme. Est-ce que moi je peux saisir la justice? Comment ça se passe d'ailleurs? Vous me dites qu'il y a des actions, mais qui les déclenche, comment, et est-ce que ça peut aboutir?
Alors, ça aboutit par une saisine dans un premier temps du tribunal administratif pour demander la suppression du ralentisseur ou sa normalisation, mais aussi pour demander l'indemnisation de ses préjudices. Et c'est ça que c'est là que c'est très intéressant, parce que les préjudices sont multiples et variés. On a des dossiers où les personnes, eh bien malheureusement, ont des accidents. Donc là, on parle de préjudices matériels quand ça concerne que la carrosserie, j'allais dire. Mais ça concerne aussi les préjudices corporels quand il y a des chutes, les motards, les cyclistes. Et puis ça peut avoir aussi des conséquences auxquelles on ne pense pas toujours. Et on a ça dans certains dossiers. Ça va être, par exemple, des conséquences sonores. C'est-à-dire qu'on a des gens qui
qui habitent à proximité des ralentisseurs. Et c'est vrai que ça fait du bruit. Hein.
Et ça fait du bruit parce que la structure même du ralentisseur, tel qu'il est construit, en toute illégalité d'ailleurs, provoque des nuisances sonores. On a aussi un autre dossier, par exemple, que je gère, d'une personne qui a des infiltrations dans sa maison à cause de la structure qui a mal été faite. Et donc, dès qu'il pleut, l'eau ruisselle dans sa cave. Bon.
On a aussi les chauffeurs de bus qui se plaignent en fait de douleurs lombaires qui sont liées au passage répété sur les ralentisseurs qui sont trop hauts, en fait.
Et exactement. Et puis, on a même des témoignages de personnes qui travaillent dans les services d'urgence qui nous disent on intervient, évidemment, en cas d'accident, avec nos véhicules, et on évite de passer dans les zones où il y a des ralentisseurs parce que ça peut provoquer des lésions complémentaires sur les personnes qu'on transporte. Vous voyez, donc c'est un vrai fléau aujourd'hui. Donc, notre action.
Alors, on va préciser, avant d'aller plus loin, Rémi, on va préciser qu'on n'est pas contre les ralentisseurs. On veut juste qu'ils respectent la norme, c'est tout.
Exactement. Notre action, elle est très simple. C'est contre les ralentisseurs illégaux. C'est pas contre les ralentisseurs tout court. C'est bien évidemment le droit de tout à chacun, du citoyen, d'exiger des collectivités, des élus, de l'administration, d'une manière générale, qu'elles respectent la réglementation. On ne demande que cela.
Oui. Alors vous avez réussi parce que justement il y a une très grande proportion des ralentisseurs qui ne respectent pas la réglementation à faire nommer. Alors c'est énorme, un juge d'instruction, c'est ça?
Oui, exactement.
Qui va mener une enquête, en fait.
Tout à fait. Oui, c'est ça, Jean-Luc. On a déposé une plainte fin septembre devant le parquet de Toulon mettant en avant un certain nombre de dysfonctionnements, de problématiques précises avec des dossiers concrets, notamment des photos de coussins berlinois, en l'occurrence, qui se désolidarisaient de la route. C'est-à-dire que quand vous passiez à proximité, vous aviez des plaques en plastique qui se baladaient sur la chaussée. Bon. Et on a depuis donc des témoignages précis, notamment de motards qui ont eu des accidents. Et cette plainte, donc transmise au procureur de la République, elle aujourd'hui est atterrie sur le bureau d'un juge qui a décidé donc d'instruire ce dossier. Donc attention, le juge d'instruction, comme vous le savez, il instruit à charge et à décharge. Donc on peut pas.
Oui, mais il va faire une vraie enquête avec des vrais moyens, c'est ça, surtout la grande
bien
nouveauté.
Sûr. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est vraiment une première. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un juge qui donne des instructions à des services de police et de gendarmerie pour auditionner des gens, pour éventuellement faire des essais, un certain nombre d'investigations, et en conclure sur l'existence ou non d'une infraction pénale, et le cas échéant, donc renvoyer devant le tribunal des élus qui ne respectent pas la réglementation. Et depuis, on a effectivement, comme je vous le disais, un flot de témoignages de personnes qui nous disent « Moi, j'ai eu des accidents à tel ou tel endroit, voilà mon dossier, je vais me constituer avec vous, je vais vous donner un certain nombre d'éléments pour appuyer votre plainte. »
Rémi, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont victimes aussi de ralentisseurs totalement disproportionnés, parce que parfois on en arrive là, ils peuvent joindre qui ?
Il joigne Thierry Modolo via son association pour une mobilité sereine et durable, qu'on retrouve principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur son site internet. Et sur ce site internet, vous avez notamment ce qu'on appelle un kit juridique qui permet aux gens de tout de suite mettre en place les diligences nécessaires quand il y a un accident, avec des recommandations d'urgence, notamment la prise de photographies, recueillir des témoignages, engager un huissier pour faire un constat, et puis engager les premiers recours sans l'aide de personne jusqu'à ce titre, jusqu'à ce moment-là, puisque l'avocat, si un avocat intervient, il intervient à la suite d'un refus d'indemnisation. Et donc sur ce site internet, vous avez toutes les ressources réglementaires, juridiques, qui permettent de constituer un dossier en vue, le cas échéant, d'une transmission devant le tribunal.
D'accord. Vous pensez que cette action, ça va au moins faire prendre conscience aux élus qu'il faut pas faire n'importe quoi?
Alors, Jean-Luc, depuis que cette action a été médiatisée et relayée beaucoup aussi sur RMC, parce que je suis intervenu très très souvent sur RMC depuis jeudi sur différentes émissions, je peux vous assurer que ça a pas mal fait évoluer les mentalités, les prises de conscience, et que comme vous le disiez, si derrière il n'y a pas de concrétisation judiciaire devant un tribunal, il y aura forcément une incidence sur la prise de décision, sur la prise de conscience, comme on l'a dit. Et on a encore vu et lu ce matin une commune qui a décidé de retirer tous ses coussins berlinois et qui en fait un outil de communication aujourd'hui auprès de ses administrés. Bon. Donc oui, nécessairement, ça va avoir des incidences et des conséquences. Je pense qu'effectivement, cette action est relayée aussi par votre émission, Jean-Luc, et François, et donc bien sûr, on vous en remercie, puisque ça a été aussi un des fils rouges de l'émission. Forcément et nécessairement, ça éduque aussi certains élus, parce que faut pas non plus leur jeter toutes les pierres. Parfois, c'est de l'ignorance. Hein, c'est pas une volonté manifeste de mal faire les choses. C'est aussi de l'ignorance, de l'incompétence. Ça, c'est autre chose. Et voilà. Donc cette médiatisation poussée va certainement aussi faire évoluer les choses.
Merci Rémi.
Merci Rémi.
Et on, allez, bientôt, on se retrouvera le 3.
Ouais. Oui,
pour souhaiter la bonne année.
Dernière, oui. Bonne fête d'ici là.
Bonne fête, allez, bon, au revoir.
Merci beaucoup. 8h24. On revient dans un instant. Thierry sera avec nous. On va parler Porsche avec Thierry.
Ah, c'est bien ça.
Il aimerait avoir votre avis sur la 900.
Un cadeau pour Noël, c'est ça?
Écoutez, on va lui poser la question. Je suis pas sûr. Enfin, ne vous mettez pas dans cette posture-là. Vous risquez d'être déçu. Il aimerait avoir votre avis sur la Porsche 987 et vos questions 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après la météo.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Quasiment 8h30, on est de retour, le week-end des experts d'automobile. Dans quelques instants, ça sera l'essai de la semaine, la DS3 Crossback que Jean-Luc a testé pour nous.
Ouais, tiens François, on parlait des ralentisseurs là, et on parlait de Thierry Modolo qui m'envoie évidemment des messages parce qu'il écoute religieusement l'émission. Il nous dit qu'une autre plainte pénale est en préparation pour mars-avril qui va être encore plus dure que la première.
Eh oui.
Donc on est vraiment dans un dossier qui va avancer.
Oui, qui n'est pas prêt de s'arrêter. Vos questions au 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et on accueille tout de suite Thierry.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Bonjour Thierry.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Encore merci en tout cas pour vos émissions du week-end. C'est avec grand plaisir qu'on écoute. Hein.
Ouais. Bah, écoutez, merci Thierry de m'appeler pour savoir ce que je voudrais comme boxeur pour
cadeau,
Noël. Ouais. Non, c'est gentil.
Mais je ne sais pas si Thierry est aussi généreux.
Non, pas ce point-là quand même.
Voilà, c'est ça.
Franchement, vous êtes dur.
Je suis désolé pour vous.
Alors, donc, qu'est-ce qui vous arrive?
J'avais une petite question. Donc, j'ai un petit plaisir à me faire justement. Et je pensais m'orienter sur une Porsche Boxer, un modèle S. Donc j'étais parti sur une 987 et je voulais savoir si c'était une bonne série. Alors la question c'était savoir est-ce qu'il fallait prendre une boîte mécanique ou une boîte Tiptronic.
PDK. Pas de Tiptronic, hein.
D'accord.
Ouais. Alors, vous savez quoi? Je vais faire comme si c'était pour moi. Tiens, on va rembobiner, Thierry. Vous allez me dire, Jean-Luc, j'ai envie de vous faire un beau cadeau pour Noël. Si je vous proposais une Boxster, alors type 987, hein, c'est le modèle qui était produit entre 2004 et 2012. Qu'est-ce que vous prendriez? Hein, on va le faire comme ça.
Alors, bah,
comme ça, je vous fais ma liste au Père Noël. Déjà, attendez, j'ai quand même une autre question. Elle dormira à l'intérieur, votre voiture?
C'était ma deuxième point. Malheureusement, non, j'ai pas de garage.
Ah ouais, parce que c'est le genre de véhicule, malheureusement, bon, avec une capote, vous savez qu'à l'extérieur, vous êtes dans quelle région?
En Seine-et-Marne.
Ouais, on n'est pas à l'abri, malheureusement, de dégradation. Hein. Quand on a ce genre de voiture, vous savez, les gens jaloux, malheureusement.
Mais c'est un parking privé complètement fermé, de toute façon.
Bon, vous pouvez peut-être vous en sortir comme ça, alors. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, moi, j'irais plutôt sur une phase 2.
Oui. Hein.
La phase 2 était produite à partir de 2009. Donc, sur un modèle S, c'est-à-dire le 3,4 litres à 310 chevaux. Alors, il a tous les avantages, ce moteur, parce que il est plus puissant et il consomme moins que les moteurs d'avant. Porsche a fait des progrès qui sont à chaque génération, pratiquement. On a une augmentation de la puissance, une baisse des consommations. Et là, ce n'est pas négligeable, hein, c'est 15%. Alors, il faut aussi plutôt privilégier un modèle avec une boîte PDK, donc la boîte robotisée.
Et par qu'on en trouve très peu, des PDK.
Ah oui, on en trouve très peu, mais bon, faut chercher, hein, ça se mérite.
Mais pourquoi? Parce que elles sont très recherchées ou parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup?
Bah parce que il y en a eu quand même pas mal. Mais c'est vrai que quand il y en a une à vendre, elle se vend plus vite parce que l'agrément est très nettement et nettement supérieur. Donc forcément, ce qui est bien aussi, c'est, alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle avec beaucoup d'options parce que les options sont souvent devenues obsolètes avec le temps. Vous polarisez pas sur les options à part une. Si vous êtes mélomane, c'est l'échappement actif.
Oui.
Vous appuyez sur le bouton et là vous êtes au concert. C'est-à-dire que vous roulez décapoté, vous écoutez le chant du moteur. Il sonne fabuleusement, même sur les autres. De toute façon, déjà, le son de cette voiture, c'est déjà un pur plaisir. Mais si vous trouvez la perle rare avec l'échappement actif, vous prenez ça.
D'accord.
En plus, c'est bon, c'est une voiture qui est confortable. Vous pouvez même partir en vacances si vous êtes que deux. Il y a quand même deux coffres.
Il y a quand même deux coffres.
Il y a quand même deux coffres et on a de la place dedans. C'est vraiment, c'est une voiture qui peut servir presque pour tous les jours.
Tout à fait. J'ai deux coffres, un pour Jean-Luc, un pour François.
Ah oui. C'est ça.
Alors le grand coffre pour Jean-Luc. Hein.
Bon, après François, si ça tombe en panne et qu'il ouvre le coffre à l'avant, qu'il n'y a pas de moteur et pas de moteur derrière, donc il va être un peu inquiet.
Oui, je veux dire, mais comment on
peut le faire? On ne voit pas la prise électrique là.
Ouais. Faire l'entretien, c'est pas des plus évidents parce que le moteur n'est pas d'une accessibilité extraordinaire. Ça, c'est un truc. J'espère que vous l'avez anticipé. Hein. L'entretien chez Porsche, c'est pas l'entretien d'un véhicule classique.
Oui, tout à fait.
Il faut penser que certaines pièces, quand ils vont vous donner le prix, vous aurez l'impression qu'ils vous donnent la date.
Oui, il faut avoir vraiment un carnet à jour.
Alors oui, tiens, vous faites bien d'en parler. La priorité des priorités, c'est un carnet d'entretien à jour. Oui. Ça, c'est le truc numéro un. Faites gaffe aux voitures qui viennent d'Allemagne, qui sont vendues par des mandataires, qui se retrouvent avec des kilométrages qui n'ont rien de réaliste. Parce que les Allemands restent, même si aujourd'hui c'est interdit, restent quand même des spécialistes de la modification du kilométrage. Donc un carnet d'entretien à jour avec un kilométrage qui tient la route, c'est le cas de le dire, et un entretien qui a été fait dans les règles de l'art chez Porsche.
Et vous privilégiez un achat plutôt chez un particulier ou un garage?
Vous allez avoir le particulier qui aime sa voiture, qui l'a toujours bichonnée, bien entretenue. C'est ça en priorité qu'il faudrait trouver. Après, sur ces véhicules-là qui commencent en occasion à être un peu anciens, il peut y avoir des gens qui en ont acheté pour se faire plaisir et qui sont pas à la hauteur du budget entretien. Donc, ils peuvent avoir délaissé un peu l'entretien, voire carrément délaissé un peu la voiture. Hein, on peut en trouver qui sont parfois dans des états. Vous savez, chaque petit détail va compter quand vous allez acheter la voiture.
Et bien sûr.
Un gars qui va vous dire, ouais, vous voyez, une petite rayure, c'est pas grave, et un petit truc. Non. Quelqu'un qui aime sa voiture, ce genre de véhicule, elle doit être impeccable.
Elle doit être nickel. Tout comme vos véhicules à vous, Jean-Luc.
Mais c'est ça. Quand on aime ses voitures, on a des véhicules impeccables. Donc, l'acheter auprès d'un particulier et prendre un véhicule impeccable, sinon, auprès d'un professionnel, vous aurez une garantie. Ça peut être sécurisant, mais vous ferez sans doute une moins bonne affaire qu'en l'achetant auprès d'un particulier.
D'accord.
Voilà. Et je vous laisse mon adresse en antenne pour la livraison. Non, vous allez voir, c'est une super auto. Franchement, c'est une super auto.
Merci à vous.
Merci Thierry.
Encore merci, puis passez de bonnes fêtes. Hein.
Vous aussi.
Bonne fête Thierry, au revoir.
Au revoir.
8h35 sur RMC. On va retrouver quelques-unes de vos questions dans quelques instants, d'ici 9h. Mais dans l'immédiat, l'essai de la semaine, Jean-Luc Moreau. Et l'essai de la semaine,
DS3 Crossback. Alors en version pure texte sans chevaux, tiens, ça nous changera un petit peu de la Porsche Boxster, même si en occasion, c'est pas extrêmement cher. Hein. Faut quand même le préciser, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, parle d'un truc qu'on pourra jamais
s'acheter. Comment ça coûte une Porsche Boxster?
Alors, vous allez me dire, ça dépend, parce que là, le modèle était produit entre 2004 et 2012. Il y a plein de variantes. Ouais. Ça va de 240 chevaux à 310 chevaux. Bon, bref, on va dire qu'on peut commencer à en trouver à partir de un petit peu moins de 30 000 euros. D'accord. Jusqu'à 45 000 euros. Quoi.
Ok. Oui. Voilà.
Bon, après, il y a des versions très exclusives qui sont encore beaucoup plus chères. Bon.
Ce DS3 Crossback.
Oui, lui, il est quand même beaucoup moins cher. Enfin, quoique, remarque.
Mais il est neuf.
C'est ça. 35 905 euros en version. Très bien équipé,
très bien équipé,
grand chic. Mais là, par contre, c'est la motorisation de base, c'est le PureTech sans chevaux pour prendre un modèle qui va être pas trop cher puisqu'il démarre en version chic à 24 200 euros. Donc, on peut quand même se faire plaisir. Bon, d'accord. C'est un petit SUV, il fait 4,12 m de long, qui a en ligne de mire les Mini Countryman et Audi Q2, un style affirmé, avec des voies larges, une ceinture de caisse assez haut. Vous savez, il y a des petites surfaces vitrées, et puis il y a quelques effets de style, comme sur le côté, on a comme un aileron de requin sur le côté de la carrosserie. Alors, ça remplaçait en fait la DS3, qui était une concurrente directe des Mini. C'est pas un véhicule qui a eu le succès, je pense, qu'espérait DS.
Ouais,
parce que la DS3, la DS3 précédente était une petite, je vous dis, c'était la concurrente de la Mini, donc c'était une petite voiture de sport. Là, on est sur un SUV. Est-ce que la clientèle cherche forcément un SUV dans cette catégorie? A priori, pas tout à fait. Bon, après, il y a aussi un parti pris de style. On peut ne pas aimer le style de la voiture, et à l'intérieur, il y a aussi un parti pris de style. C'est le thème du losange qui est cher à DS, qui est cher en particulier à son directeur du style, avec, bon, on va dire une finition quand même qui est peut-être un cran au-dessus de ce qu'on trouve. On parlait tout à l'heure de Mini, qui est une concurrente directe sur la Countryman, avec une finition qui est quand même un cran au-dessus, avec des matériaux qui sont plus exclusifs, avec du vrai cuir sur la planche de bord, avec une sellerie, vous savez, avec un dessin bracelet qui a été d'ailleurs breveté par la marque, qui est du plus bel effet. Et puis avec un équipement, bon, sur moi, sur la version évidemment que j'ai essayé, qui était archi bien équipé, qui est hyper complet. Vous avez, alors ça démarre en version chic, comme j'ai dit tout à l'heure, à 24 200 euros. Vous avez après quatre inspirations qui mixent les matières intérieures. Ça, alors j'aime bien les noms, hein. C'est Montmartre, ouais, ensuite Opéra, mais c'est bien, ouais, c'est bien parce qu'on dit on va faire une marque de luxe à la française.
Il faut évidemment qu'on garde les codes.
Exactement, autant reprendre les codes. Alors,
j'aimerais bien avoir une antenne Tour Eiffel, moi, par exemple.
Un petit peu moins haute, peut-être. Alors, là où ça déçoit un petit peu, c'est au niveau de l'espace intérieur. Il n'y a pas une largeur qui est extrême, et surtout, l'espace aux jambes à l'arrière est assez limité. Les vitres aussi, qui sont imposées par le style de la voiture, font que quand on est assis derrière, on a un sentiment d'enfermement qui n'est pas très agréable. Et puis, la contenance du coffre est quelconque, hein, c'est 220.
Mais c'est pour rendre hommage au RER parisien.
C'est ça, c'est ça.
Mais il faut garder les codes.
Mais il y a moins de pollution, hein, quand même, dans un DS3 Crossback. Et puis, un coffre qui est quelconque, un 220 décimètres cubes. Alors, vous allez me dire, à conduire, c'est comment?
Et
alors,
oui.
Déjà, c'est confort. Vous avez des grands sièges avant qui sont confortables, des suspensions qui sont souples. Alors, même si ma voiture d'essai, moi, a été équipée avec des jantes de 18 pouces, bon, c'est joli, mais comme je le dis à chaque fois...
Vous ne les avez pas démontées?
Ouais, j'aurais dû les démonter, mais on peut avoir, sur d'autres finitions, on a des jantes de 16 ou 17 pouces qui sont à la fois moins lourdes, vous consommerez moins, et puis vous aurez plus de confort. Donc, je vous conseille plutôt des finitions moins hautes que celles-là, quitte à prendre des options pour compenser. Alors, vous avez sous le capot un moteur qu'on connaît hyper bien maintenant chez PSA, c'est le PureTech, dans sa version 100 chevaux, c'est un 3 cylindres. Il est largement suffisant pour cette voiture parce qu'elle n'est pas extrêmement lourde. Malgré son look de SUV, elle fait que 1230 kg. Et puis, vous avez une vraie souplesse sur ce moteur. Alors bon, il y a une boîte 6 vitesses. La 6e est vraiment réservée aux vitesses, aux allures stabilisées, parce que ça manquera un petit peu de reprise. Mais sinon, pour le reste, ça marche bien. Les relances sont bonnes. Et puis bon, si vous voulez plus de patates, vous avez après une version 130 ou 155 chevaux. Mais très honnêtement, pour un usage, on va dire, classique, c'est pas nécessaire. Alors, consommation aux alentours de 6 litres et demi, ce qui est plutôt raisonnable pour un modèle essence de ce poids. Châssis équilibré malgré le fait qu'il soit un peu haut sur pattes, mais il est confortable, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on peut renoncer à un peu de précision de conduite pour avoir du confort. Là où, en revanche, DS a calqué un peu trop sur Mini, c'est au niveau des options. Vous avez l'optionite aiguë, qui est une maladie très courante. Alors, quand on a le catalogue des options, on a l'impression qu'on est en train de lire le bottin. Voilà. Et puis, bon, les tarifs, c'est vrai que même si ça démarre à 24 200, la version que j'ai essayée, 35 905 euros, ça tape quand
il y a
même
plus de 1000 euros d'options.
Voilà, ouais, ça tape un peu pour un véhicule de ce créneau. Mais c'est bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que enfin, quand on nous parle de luxe à la française, on monte dedans et on se dit, c'est pas surfait.
C'est ça.
C'est pas surfait. Il y a vraiment, ça apporte quelque chose par rapport aux autres modèles.
C'est bien. Bravo. 8h41, Jean-Luc. Véronique sera avec nous dans un instant. Elle roule en Clio 3 depuis 2010. Et elle a un budget de 20 000 euros pour changer son véhicule. Et elle attend évidemment vos précieux conseils. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Votre auto jusqu'à 10h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.
9h moins le quart, bon réveil avec RMC. Et merci de nous être fidèles. Vous le savez, 3h d'auto le dimanche, 7h-10h, c'est exclusif RMC. Jean-Luc, nous allons enchaîner avec vos questions maintenant, vos questions au 32-16 d'ici 9h. Et on accueille avec plaisir Véronique. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Bonjour Véronique.
Bonjour. Voilà, Véronique, je voulais vous dire que c'était vraiment dommage que vos émissions s'arrêtent. Voilà, elles sont très intéressantes. Dommage, mais bon.
Bon, merci Véronique.
Bah, merci Véronique, c'est gentil. Voilà. Vous suivrez Jean-Luc Moreau sur Facebook?
J'ai pas Facebook.
Ah, bah moi, j'avais pas en début de semaine, Véronique. Donc, vous voyez, rien n'est immuable.
Voilà, la semaine prochaine, je m'y mettrai.
Parfait.
Bon, alors, vous avez donc 20 000 euros pour acheter une nouvelle voiture, c'est ça?
Voilà, à peu près. Voilà, j'avais acheté une Clio 3 diesel il y a 10 ans. J'avais profité de la prime à la casse.
D'accord.
Et voilà, donc, je viens de passer les 300 000 km.
Ah, c'est bien! C'est bien, ça veut dire que déjà vous roulez beaucoup, donc vous aviez acheté un diesel pour une bonne raison, ça c'est bien.
Oui, oui, et j'ai eu aucun problème avec cette voiture, vraiment.
D'accord.
J'ai vraiment eu aucun problème, voilà.
Et vous voulez quoi comme type de vie? Alors vous voulez une voiture neuve, vous voulez une occasion récente, vous voulez quoi?
Alors peu importe, à la limite, ça m'est égal. Je voudrais une voiture confortable, hein, parce que j'ai un peu mal au dos.
Ah.
Voilà. Et donc, c'est surtout l'alternative au diesel. Est-ce que
vous allez rouler autant que vous rouliez jusqu'à présent?
Oui, oui.
D'accord.
Oui.
Bon, alors moi j'ai une vieille Clio 1 d'occasion, 450 000 km, presque neuve, à peine. Bon, elle est un petit peu touchée au niveau carrosserie, c'est François qui la conduisait. Mais à 20 000 euros, je vous la cède sans problème.
Bon, alors peut-être que je vais changer alors.
Ouais, non. Alors on va essayer d'être sérieux. Alors, vous pourriez être cliente si elle vous plaît, mais elle est très jolie. On va revenir à la Sandero Stepway dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est la bonne affaire de l'année, celle avec le moteur EcoG100, donc qui roule au GPL. Donc si vous roulez beaucoup, c'est très intéressant de rouler au GPL, parce qu'avec un carburant qui est moins cher, vous allez faire des économies à chaque kilomètre. Même si vous prenez la version Stepway, donc celle qui a un look un peu plus sympa, un petit peu baroudeur, un peu surélevé, c'est très confortable. Donc ça, c'est bien pour vous. Oui. Et vous allez faire je vous fais faire 5 000 euros d'économie, puisqu'elle n'est même pas à 15 000 euros.
D'accord. C'est celle que vous avez parlé tout à l'heure.
Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Mais en plus, l'essai, c'était quoi? C'était il y a 15 jours, 3 semaines. Je pense que ça doit être encore en ligne sur les podcasts. Essayez de le retrouver.
D'accord.
Hein. Franchement, c'est le aujourd'hui le meilleur rapport prix-prestation, c'est ça.
D'accord.
Vous pouvez vous payer avec votre budget la version archi super luxe avec un volant en or.
D'accord.
Je plaisante, hein, évidemment, ça n'existe pas.
La version Dubaï.
Et les voitures qui roulent à l'éthanol,
j'allais vous proposer en deux. Si, attendez.
Ah, d'accord,
Mais là, je vais vous dire un truc secret. J'ai déjà commencé à en parler la semaine dernière, mais maintenant, on va avancer un peu plus. À partir du 26 janvier, Ford va lancer une nouvelle gamme de véhicules à l'éthanol. Il y aura du choix, parce qu'il va y avoir plusieurs modèles. Il y aura de la petite voiture. Alors pour l'instant, on n'a pas le détail.
C'est un scoop, ça.
Oui, c'est un scoop, bien sûr. Oui. Mais je vous donne mon opinion à moi. À mon avis, il y aura de la Fiesta éthanol. À mon avis, il y aura du Ford Puma éthanol, qui peut très bien correspondre à ce que vous voulez acheter. Voilà.
Oui.
Hein, et le Puma, il est sexy. Rouler à l'éthanol, dans votre cas, ça peut être aussi très, très intéressant.
Oui.
Puisque vous êtes dans quelle région, d'ailleurs?
Alors, je suis dans l'Hérault.
Ouais.
Et
il est à combien, l'éthanol, chez vous? Vous avez déjà du rôle?
Je ne sais pas du tout.
Regardez, ça va vous faire envie. Alors, attendez. Je ne peux vous dire que ça. Attendez fin janvier, avant de vous décider.
Oui.
Vous regardez si dans la nouvelle gamme éthanol Ford, il y a un véhicule qui vous convient. S'il y en a un, foncez. Sinon, vous avez toujours ce deuxième choix qui, en fait, est même un premier choix aujourd'hui. Hein, cette Sandero Stepway, qui est une voiture, moi, je vais le dire, fabuleuse pour son prix. Voilà, il n'y a pas de concurrence.
Il n'y a pas de concurrence. Merci Véronique. Allez, on enchaîne avec Nathanaël, qui est avec nous au 32-16, avant de retrouver la météo et les infos de 9h. Bonjour Nathanaël.
Bonjour messieurs.
Bonjour Nathanaël.
Bienvenue.
Oui, Merci. Écoutez, je suis désolé un petit peu de vous voir partir.
On est tous un peu désolés, on est tristes, parce que c'est vrai qu'au bout de 17 ans, quand même, on s'est habitués, ça fait un peu famille.
Voilà.
Mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça, hein, Nathanaël, c'est la vie, hein. Vous savez qu'il y a toujours un début, une fin à tout, et encore, on peut se réjouir malgré tout que RMC pendant 19 ans nous ait laissé la possibilité de faire ces matinales, hein, c'est clair. Hein.
C'est vrai que c'était très intéressant dans l'ensemble.
On vous écoute, Nathanaël. Qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, bon, pas grand-chose. Je suis en train de vouloir changer mon vieux 4x4 polluant dont j'ai plus besoin parce que j'étais bûcheron avant et puis je suis revenu dans les soins infirmiers.
D'accord.
Et le souci, c'est que j'ai vraiment un petit budget aux alentours de 4 000 euros, et là j'ai regardé sur des véhicules comme une Dacia Logan LCV
Break, ou LCV. MCV le break. Vous avez beaucoup de choses à transporter, j'imagine, c'est pour ça que vous voulez un grand break.
Je fais du tir à l'arc, j'ai de la ciblerie, des choses comme ça à transporter, donc il faut du volume, quoi. Pas du poids mais du volume.
Ouais, là vous avez un coffre de 700 litres, vous allez pouvoir en mettre des bouteilles dedans, hein.
Ouais.
Pas des bouteilles là, pour le tir à l'arc, non.
Non.
Et donc là, j'ai remarqué un véhicule essence en 1,6 litre injection, 105
chevaux. Ouais, chevaux. C'est ce moteur-là qu'il faut prendre, parce qu'il y a deux moteurs qui sont tous les deux des moteurs d'ancienne génération. Hein. Il y a le 1,6 litre MPI, 90 chevaux, il faut l'oublier, parce que quand la voiture va être chargée, les accélérations sont sur rendez-vous, donc c'est pas terrible. Le 1,6 litre 16 soupapes est un petit peu mieux, il fait 105 chevaux. Par contre, il est un peu gourmand. Donc vous risquez quand même d'être aux alentours de 8-9 litres, hein, quand vous roulerez chargé avec ce moteur-là. Pour le prix, c'est vrai que c'est en plus c'est des moteurs fiables. Donc de ce côté-là, vous êtes à peu près tranquille. Le confort est bon sur cette voiture, il est même excellent. Et puis la tenue de route est bien aussi. Vous m'avez dit que vous étiez dans quelle région?
Je suis en Charente, moi.
Charente, bon, c'est plat la Charente, ça va. Non, parce que comme je m'ai dit avant, j'avais un gros 4x4, je pensais que vous étiez dans une région où ça montait, ça descendait.
Non, c'est que j'étais bûcheron, donc il fallait que j'accède à des chantiers souvent.
Mais bûcheron en Charente, il y a beaucoup de forêts en Charente?
Oui, il y a un petit peu,
j'aurais pas dit.
Dites-moi, Nathalie, moi, ce qui m'inquiète.
C'est pas le département le plus forestier.
Ah, on est d'accord. J'étais bûcheron dans les Landes, j'aurais compris.
Non, ce qui est étonnant, c'est que Nathalie passe de bûcheron à infirmier. J'espère que vous êtes un petit peu plus doux quand même quand vous faites les piqûres.
Oui. Bah, j'ai été infirmier pendant 18 ans.
Ah, d'accord.
Avant.
Bon, il faut pas se tromper d'outil là, parce qu'autrement.
Voilà.
Enfin, pour les amputations, c'est pratique. Mais enfin bon.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Sinon, sur ce véhicule, je voulais savoir aussi si le moteur acceptait du bioéthanol.
Il a combien de kilomètres ce moteur?
Il a 123 000.
Ah, c'est un peu trop pour le passer à l'éthanol, ouais.
Oui.
C'est un peu trop, vous prenez un risque
en matière de l'alcool.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais.
C'est ça,
quand on commence à vieillir, on supporte moins l'alcool.
Et oui, voilà.
Regardez François dans l'état où ça l'a mis. C'est terrible. Ça me fait penser tout à l'heure, on a oublié de parler d'un truc, c'est que on parlait de la pollution des voitures qui a été mesurée. En fait, la pollution dépend aussi du pourcentage d'éthanol dans les carburants. Plus on va avoir un carburant avec de l'éthanol, moins on aura une pollution importante.
Et oui.
Donc ce qui amène encore de l'eau à mon moulin, l'éthanol, c'est aujourd'hui une excellente solution à la fois pour le réchauffement global, pour l'économie française, puisque c'est un carburant français.
Bien sûr.
Et pour la pollution. C'est vraiment un carburant beaucoup moins polluant.
Jean-Luc, bientôt 9h. On revient pour notre dernière partie de ce week-end des experts dans un instant. Question pas si bête, notre rendez-vous sur le vif. Évidemment, toutes vos questions au 32-16. On parlera aussi du marché automobile de 2020 qui n'a pas été terrible, on s'en doute. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre tour.